Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos deux invités du jour, Bertrand Mesure d'abord, qui est co-secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, syndicat d'enseignants du primaire. Il nous parlera notamment de la crise du Covid qui s'intensifie dans les écoles à Trappes et ailleurs. Julie Mautier sera également avec nous, responsable du service d'aide aux victimes de l'association DIR, association basée à Montigny-le-Bretonneux. Elle nous parlera de deux sites internet, deux plateformes récemment mises en ligne pour aider les personnes victimes de violences. En fin d'émission, nous retrouverons Pierre Joannet de l'EFC Que Choisir. Il nous parlera des cookies, les cookies non pas à manger mais que vous avez dans vos ordinateurs. Pour lui, il vous expliquera pourquoi refuser les cookies est aussi difficile que les accepter. Et vous verrez que c'est parfois, c'est pas si simple. Le flash d'actualité locale à 17h30. Allez, on va commencer comme à notre habitude avec un peu de musique et on revient juste après avec notre premier invité. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Bertrand Mesure, bonjour.
Bonjour.
Co-secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, syndicat d'enseignants du primaire, avec nous pour commenter un petit peu. Ben, on l'a appris ce matin, hein, pour les journalistes bien renseignés peut-être dès hier soir, qu'il y avait une possibilité de fermeture des écoles dans l'allocution du président de la République donc, qui est à venir ce soir à 20h. La première question que j'aimerais vous poser, Bertrand, c'est est-ce que vous pourriez, pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'ont vécu voilà, les écoles, notamment les écoles primaires, quel protocole précis? Et comment le protocole a-t-il évolué? Alors, je ne vais pas vous faire remonter à mars dernier, mais peut-être depuis le mois de septembre. Voilà. Quelles sont les consignes que vous avez eues? Voilà. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que les écoles ont pu les mettre en place ou pas. Voilà, est-ce qu'on pourrait commencer d'abord pour voir voilà, quelles informations vous avez eues et puis après, surtout sur ces derniers jours.
La question qu'on a eu à traiter depuis l'année dernière, mais l'année dernière on était dans une phase particulière, mais depuis le mois de septembre, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas pris en compte la réalité pour ce qu'elle était, c'est-à-dire que je pense qu'ils étaient tous partis au gouvernement avec l'idée que l'automne ne serait finalement qu'une queue de comète de ce qui s'était passé au mois de mars et qu'il n'y avait pas lieu de s'affoler. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les écoles n'étaient pas préparées, absolument pas préparées, que rien n'avait été anticipé, que le protocole avait montré ses limites pendant la période de mai-juin et qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement des écoles pour leur permettre de continuer à fonctionner. Au lieu de ça, le ministre a continué à sortir des protocoles renforcés, pas renforcés, enfin bon, avec plein de termes, mais qui de toute façon, dans la réalité, sont inapplicables. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils sont extrêmement complexes et que la complexité n'est pas de mise dans une école. La deuxième raison, c'est que si on appliquait les protocoles dans toute leur rigueur, on en viendrait à s'opposer à ce qui est nécessaire et naturel chez les jeunes enfants et chez les enfants en général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser un certain nombre d'éléments du protocole sans contraindre et sans faire en sorte que la vie à l'école devienne extrêmement compliquée. Donc ça n'était pas possible et dès que le variant anglais est apparu, eh bien les limites de ce protocole sont apparues tout autant. Et alors que le ministre savait pertinemment que ce variant concernerait beaucoup plus les écoles que le précédent, il a fait comme s'il ne se passait rien, il a mis la tête sous le sable et il a continué à affirmer contre toute raison que les enfants et les personnels ne seraient pas impactés dans les écoles. Voilà, donc on avait un protocole qui était inapplicable et par contre ce qui aurait pu être fait ne l'a pas été. Ce qui aurait pu être fait, c'est d'abord de mettre en œuvre une vraie politique de test dans tous les établissements scolaires. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, le département des Yvelines dispose d'à peu près 7500 tests par semaine pour tester environ 250 000 élèves.
Les fameux tests salivaires, c'est ça ?
C'est les fameux tests salivaires. Donc c'est tout à fait cosmétique. C'est très intéressant pour l'ARS qui peut faire des études épidémiologiques, mais ça ne correspond pas au niveau dont on aurait besoin dans les écoles. Si on prend le cas, par exemple, de l'Autriche, les élèves sont testés deux fois par semaine. Donc on n'est absolument pas dans cette situation-là. Or, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Plutôt que de se poser la question de savoir si les gens étaient contact, pas contact, en fonction de la durée d'exposition, l'âge, etc., la solution la plus simple était de faire des tests très régulièrement dans les écoles, d'isoler toutes les personnes qui travaillaient dans cette école, que ce soit les enfants, les enseignants et puis les personnels municipaux, et puis de façon à éviter que les clusters se développent. Au lieu de ça, le ministre a fait semblant de croire, et surtout il a menti sur à peu près tout, en disant qu'il y avait peu d'impact, alors que, suivant les moments, l'ARS estimait entre 2 à 3 fois plus de contaminés dans les écoles que ce que le ministre voulait bien dire. Il s'est arc-bouté sur l'idée que les écoles ne devaient pas être fermées, y compris quand les écoles ne tournent qu'à, on va dire, 20-25% de leur capacité et dans un mode extrêmement dégradé. Tout ça pour faire de l'affichage, de la communication. Et évidemment, c'est au détriment du fonctionnement des écoles. Tout ça est vraiment une faillite intellectuelle, mais ça se double en plus d'une faillite morale, parce que derrière ces tergiversations, derrière ce manque de moyens, derrière ces lots de masques qui sont envoyés dans les écoles, puis retirés parce que inutilisables, derrière tout ça se cachent quand même des personnels qui sont malades, se cachent des parents qui tombent malades, voire qui décèdent, et une bonne partie de tout ça aurait pu être évitée si au lieu de se draper dans une espèce de perception idéologique de ce qu'est un enfant et de ce qu'est une école, on avait pris en compte la situation pour ce qu'elle est. Mais manifestement, on a un ministre qui n'arrive pas à se contenter de la réalité, qui ne voit que ce qu'il a au bout de son idéologie, et son seul horizon à lui, c'est son calendrier et son agenda. Le reste, il s'en moque complètement.
Et mi-février, il y a d'ailleurs une décision qui avait été assez surprenante, puisque le protocole sanitaire avait été allégé dans les écoles.
Oui, mais enfin, vous savez, depuis septembre, les protocoles se suivent et leur mise en œuvre, de toute façon, n'est que très partielle. Hein, parce que la difficulté qu'on rencontre à la fois dans l'organisation et puis dans la gestion de toutes les tâches qu'il y a à faire, on la retrouve aussi dans la nécessité qu'il y a d'avoir des personnels en nombre suffisant. Or, très vite, quand les personnels ont été absents, ils n'ont pas été remplacés. Donc, de fait, il y a eu du brassage dans les écoles. Les personnels communaux ou d'entretien eux-mêmes subissaient la même vague que le reste de la population. Donc, très vite, on s'est retrouvé dans des conditions extrêmement dégradées. Et si c'était très bien pour les élèves, c'était très bien qu'ils puissent continuer à venir à l'école. En tout cas, ça n'a absolument pas permis ni de contrôler ni de maîtriser la pandémie. Mmh. Et l'affirmation obsessionnelle que les enfants ne pouvaient pas transmettre la maladie et qu'il ne se passait rien dans les écoles, on est en train de le payer très cher.
Oui, c'est ce que j'ai entendu pas plus tard qu'il y a une heure par un virologue qui disait qu'à moins de 6 ans, enfin pour les enfants qui ont un peu moins de 6 ans, voilà, il n'y avait pas d'études en tout cas qui montraient qu'il y avait qui transmettait en tout cas beaucoup le virus. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Le débat n'existe pas en tout cas au collège, au lycée, puisque ce sont les chiffres, les mêmes chiffres que dans le reste de la population. Alors du coup, Bertrand Mesure, concrètement, là, si on parle par exemple d'une ville comme Trappes, ou des villes alentours, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau du nombre de personnes touchées par le Covid là récemment? Est-ce que ça a augmenté, que ce soit au niveau des enseignants, ou au niveau du personnel, hein, que ce soit les ATSEM ou autres, ou au niveau des enfants eux-mêmes?
Alors ce qu'on constate, c'est qu'au début, on était sur des phénomènes très, très marginaux, c'est-à-dire une personne qui était testée positive, donc des mesures, on va dire, d'isolement partiel, même s'il y a quand même eu des écoles qui ont été fortement concernées, hein, puisqu'il y a quand même eu des écoles qui étaient quasiment fermées à l'automne. Mais là, une fois que l'épidémie est revenue, en particulier avec le variant anglais, ce qu'on constate partout, alors le recenser, ça n'a plus aucun sens, hein, tellement les situations évoluent de jour en jour, voire d'heure en heure. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un enseignant, 1, 2, 3, 4 élèves qui deviennent positifs. Donc on ferme une classe, mais on ne veut pas fermer l'école, on ne veut pas tester l'ensemble des enfants et des personnels sur l'école. Donc qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, c'est 1, 2 autres adultes qui est testé positif, voire d'autres enfants, et puis des injonctions contradictoires arrivent. On a même demandé dans certaines écoles à ce que des élèves qui avaient été isolés parce qu'ils étaient cas contact puissent revenir dans l'école et être brassés avec leurs collègues des autres classes qui, eux, n'étaient pas cas contact. Mmh. On a vu des aberrations de ce type-là. Donc tout ça a fait qu'au bout d'un moment, plutôt que de prendre en compte les choses et de dire, déjà il n'y a pas une égalité des territoires, hein, puisque j'évoquais tout à l'heure les 300 000 tests, il faut savoir que la répartition de ces tests se fait de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que l'Académie de Versailles, Paris ou Créteil ne sont pas mieux dotés en tests, alors que ce sont, et en particulier Créteil, Versailles, ce sont des académies qui sont extrêmement concernées par le Covid. Donc il aurait fallu mettre beaucoup plus de tests. Ça n'a pas été le cas. Il y a une répartition qui, je le pense, est tout à fait politique. D'autre part, le ministre s'est quand même permis de rendre de l'argent sur son budget de l'année 2020, alors qu'il aurait pu acheter des tests du taux de CO2 qui sont un bon indicateur du degré d'aération dans les salles, alors qu'il aurait pu acheter des masques corrects, au lieu d'acheter des masques défectueux qu'il est obligé de rappeler. Il aurait pu acheter des tests, il aurait pu mettre en place une vraie politique. Ça n'est pas le cas. La seule chose qu'il s'est contenté de faire, c'est d'utiliser cette arme dérisoire du protocole dont tout le monde a su dès le départ, hein, puisque c'est l'expérience vécue du printemps dernier, que c'était absolument pas suffisant et qu'en tout cas c'était impossible à mettre en œuvre, sauf à mettre les enfants, les personnels, dans des conditions de travail qui étaient inacceptables.
Bertrand Mesure est notre invité sur Marmite FM 88.4, co-secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, syndicat d'enseignants du primaire. Alors Bertrand Mesure, une question que je vais vous poser, hein, puisque le président de la République va s'exprimer ce soir à 20h. Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenant fermer les écoles ?
Alors, je serais tenté de dire, je ne sais pas si vous connaissez l'expression de quelqu'un à qui on reprochait le budget de l'éducation nationale, de dire... Si vous pensez que l'éducation coûte trop cher, essayez sans. Alors on a essayé. Ça a été évidemment pas voulu, mais c'est ce qui s'est passé avec les confinements. Oui. On a essayé sans et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est insoutenable. C'est absolument insoutenable. Les enfants, j'écoutais en ce moment, ce matin même, Stanislas Dehaene, qui précisait bien, le copain scientifique de Blanquer, qui a bien précisé que ce qui est important dans les apprentissages, c'est autant le caractère social des apprentissages que le caractère cognitif, et qu'il n'y a pas d'apprentissage sans expérience sociale.
Ce à quoi vous souscrivez, bien sûr.
Ce à quoi je souscris. Oui. Je ne souscrirai pas à tout ce que dit Stanislas Dehaene, mais en tout cas, je souscris à cet élément-là, et puis c'est quelque chose qui est transverse dans l'éducation depuis très longtemps. On sait que l'effet social est extrêmement important dans l'apprentissage des enfants parce que l'être humain est un animal social et qu'il a besoin de cette proximité avec ses pairs, avec des adultes. Il a besoin de ces interactions riches et adaptées pour apprendre. Et ce que ne peut absolument pas faire ni une tablette, ni même des classes virtuelles. Ça n'a pas du tout la même qualité, ni la même richesse. C'est d'ailleurs ce à quoi est arrivé aussi M. Dehaene. Donc, pour moi, c'est une catastrophe de fermer les écoles. Mmh. Mais voilà, est-ce qu'on ne va pas être obligé de le faire, sachant que, de fait, la plupart des écoles, quand elles ne sont pas fermées, sont dans des modalités de travail tellement dégradées que voilà, on en vient à ne garder que quelques élèves. Et puis, au bout du bout, dans beaucoup de situations, on finit par fermer l'école entièrement. Oui. Donc ce sont des allées, des retours, des élèves, les élèves qui reviennent croisent ceux qui partent, hein, si vous me permettez l'expression. Enfin, tout ça n'est pas très satisfaisant. Et surtout, il y a eu une occasion manquée, l'occasion vraiment de prendre les choses pour ce qu'elles étaient, comme d'autres pays ont fait, qui ont mis en place des mesures de tests massives pour se donner les moyens de limiter la contagion dès qu'elle apparaissait. Ça n'a pas été le choix du ministre, qui a fait semblant de croire que tout se passerait bien. Et malheureusement, j'ai peur qu'on soit obligé d'arriver à la fermeture des écoles. Vous évoquiez les collèges et les lycées. Là aussi, on est dans une espèce de perception un peu éthérée de ce que serait un enseignement normal. Il n'y a plus rien de normal. Et ne pas accepter ou accepter très difficilement les demi-groupes comme l'ensemble des organisations syndicales l'avaient souhaité dès le début, ça a été là aussi une catastrophe. On est vraiment sur quelqu'un, je parle de notre ministre et certainement de notre gouvernement, puisque j'ai cru comprendre que le premier épidémiologiste de France était à l'Élysée. On est sur des personnes qui s'estiment être en position de supériorité et tout savoir sur tout, et être capable de juger de toutes les situations et d'accompagner toutes les situations, non pas en fonction de ce que les apports scientifiques, sociaux, etc. peuvent leur donner, mais en fonction de leur pure boussole idéologique. Et c'est ce qu'on est en train de payer actuellement. J'ajouterais que Jean-Michel Blanquer a utilisé un tweet pour dire que c'était très bien d'aller à l'école.
Oui, c'est une vidéo virale étrangère, voilà, d'ailleurs, en anglais.
Et voilà, en anglais, et sachant que la prof en question qui a produit cette vidéo s'est empressée de faire remarquer à M. Blanquer qu'elle exerce en Californie et qu'en Californie, tous les enseignants sont vaccinés. Oui. Et que donc, on n'est pas tout à fait non plus dans le même cas de figure. Donc voilà, il ne fallait pas vacciner les enfants, il ne fallait pas vacciner les enseignants, il ne fallait pas tous les tester, il ne fallait pas prendre ses responsabilités. Eh bien voilà, on est dans une situation catastrophique et c'est des décisions de catastrophe que le
président
de la République
va
être obligé de prendre.
Dans quel état d'esprit sont les enseignantes, les enseignants, Bertrand Mesure ? Vous avez parlé à l'instant de cette vidéo virale avec la personne, vous avez précisé qu'elle était vaccinée. Personnels pour l'instant de l'éducation nationale ne sont pas en tout cas dans la liste. En tout cas, le président de la République avait annoncé dans une interview récente qu'ils allaient bientôt être dans les personnes justement prioritaires. Mais en attendant, elles ne sont toujours pas vaccinées. Voilà, dans quel état d'esprit est-ce qu'elles vont enseigner justement, sachant que bon, elles se retrouvent potentiellement déjà avec d'autres collègues. Voilà, il y a du brassage avec les collègues peuvent manger ensemble, et également les enfants, même s'il y a certaines voix qui disent que bon, les enfants ne contaminent pas trop, mais en tout cas, quand on voit les chiffres, il y a des écoles primaires, même des écoles, des classes de maternelle qui ferment, pas seulement les élémentaires. Donc voilà, dans quel état d'esprit sont les enseignantes, les enseignants?
Les enseignants, ils ont un état... Bon, déjà, ils sont épuisés, hein, parce que ce climat, parce que au-delà de la gestion qui est quand même très éprouvante de tout ça, on a aussi le fait que la plupart des collègues font remonter que ils ne peuvent pas mettre en place de projets, qu'ils ne peuvent pas faire un certain nombre de choses. Beaucoup d'écoles ont décalé leur récréation, ce qui fait que les personnels sont tout le temps avec les élèves. Il n'y a même pas une petite respiration de 5-10 minutes au moment de la récréation quand les collègues gardent l'ensemble des élèves. Tout ça produit beaucoup d'épuisement. Les organisations habituelles des écoles se complexifient. Donc là aussi, c'est un élément de fatigue. Et puis, les personnels, je crois, sont vraiment dégoûtés, trouvent insupportable cette façon qu'a le ministère de nier la réalité et de parler en permanence d'enseignement normal, de continuité pédagogique, comme si les choses pouvaient se perpétuer telles que le ministre le veut. Non, c'est pas la situation sur le terrain. Donc on a des personnels qui sont vraiment très fatigués. Un certain nombre d'entre eux sont dans une situation de risques psychosociaux, ouais, qui sont maintenant avérés et en nombre de plus en plus important. Je suis au CHSCT de la Clinique de Versailles.
Ça, CHSCT, rappelez-nous ce que c'est rapidement pour
la sécurité. Commission d'hygiène, ouais, et de sécurité des conditions de travail. Mmh. Et les psychologues du travail qui sont actuellement sur la Clinique de Versailles notent de plus en plus de personnel qui tombent pour lequel le risque se réalise, et des personnels qui vont très mal sur le plan psychique, mmh, parce qu'il y a la peur d'être contaminé, il y a la peur de contaminer les siens.
Oui.
On a des collègues quand même qui, je pense en particulier à une école du 92, où une collègue a ramené, justement, c'était cette espèce de stop and go au niveau de son école, et au bout du bout, elle a fini par ramener la maladie chez ses parents, et l'un des deux parents est décédé. Donc, c'est quand même des contextes très lourds. Ce week-end, on parlait du lycée de Draveil. Il faut, oui, savoir que comme dans ce lycée-là, il y a en Seine-Saint-Denis, il y a plusieurs parents, il y a plusieurs dizaines de parents qui sont morts dans ce lycée.
Oui, donc, 20 parents qui sont morts, effectivement.
Voilà, donc il y a 20 parents qui sont décédés. Enfin voilà, tout ça signe pour moi vraiment une faillite morale, parce que on peut dire tout ce qu'on veut, la situation est extrêmement complexe et personne n'en aurait voulu à un gouvernement de dire on tâtonne, on est en difficulté, on va essayer d'accompagner au mieux, on va essayer de mettre le même... Mais non, le maximum de moyens n'a pas été mis sur la table, hein, c'est ce que je vous disais, quand même 200 millions d'euros, ça permet de payer quand même des masques de bonne qualité, des tests, des appareils de mesure du CO2, etc. Mais tout ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que ce qui est absolument inacceptable et ce que les collègues vivent très mal, c'est cette vision de gens qui sont, alors je vais peut-être être un peu exagéré, mais on a l'impression d'être dans les tranchées et que on a en permanence des ganaches, comment dirais-je, galonnées, qui passent leur temps à dire, ben si, vous allez pouvoir prendre telle colline, vous allez pouvoir prendre telle tranchée, et peu importe si on les alerte sur les difficultés qu'il y a de mise en œuvre. Ce sont des gens qui ont définitivement perdu le contact avec la réalité, mais qui font peser des injonctions contradictoires qui sont insupportables sur le terrain. Et ça, ça pèse, je crois, autant. On aurait aimé plus d'humilité, plus de confiance dans les personnels. Vous vous rendez compte qu'après le 19 mars, la première préoccupation au niveau du département des Yvelines, c'était de renvoyer les enfants à la piscine. Beaucoup de collègues ont fait remarquer que ce n'était peut-être pas l'urgence, même si c'est important d'apprendre à nager. Mais est-ce que la piscine est un milieu vraiment protégé? Est-ce que ce n'est pas un milieu de contact? Ben non, l'urgence, c'était de les renvoyer à la piscine. Il y a des contradictions incompréhensibles. Quand vous évoquiez tout à l'heure un protocole allégé, c'est le moment où les professeurs de PS se sont vus interdire de travailler dans les gymnases. Bon, pourquoi pas? Il fallait travailler dehors. Bon, pourquoi pas? Le protocole est renforcé et là, on réautorise l'utilisation des gymnases pour les professeurs de PS. Tout ça n'a aucun sens, absolument aucun sens, si ce n'est les lubies du moment d'un ministre qui est complètement perdu, complètement désorienté et qui, du coup, perd et désoriente l'ensemble du système éducatif.
Dernière question, Bertrand Meseure, pardon. Est-ce que, après l'allocution du président ce soir, donc à 20h, et une possible annonce de la fermeture des écoles, est-ce que vous êtes prêt? Vous saviez, un des mots qu'on a beaucoup répété, une des expressions qu'on a beaucoup entendues l'année dernière, c'est la continuité pédagogique. Voilà, est-ce que les enseignants sont prêts à faire cours à distance avec les élèves s'il faut dès lundi?
Voilà, c'est un exemple type de cette faillite intellectuelle que j'évoquais tout à l'heure. Parce que, vous vous souvenez, tel Gamelin avant 40, le ministre de l'Éducation nationale avait dit que tout le monde était prêt au mois de mars, ce qui s'est révélé totalement faux. Et au lieu, à la rentrée, de préparer, d'améliorer le système, de s'occuper, de savoir si on était en capacité, alors je ne dis pas de réaliser, mais au moins d'améliorer ce qui avait été fait l'année précédente, il est parti sur le postulat qu'il ne se passerait rien dans les écoles cette année et que la seule chose qui comptait, c'était combler le, entre guillemets, retard pris au printemps. Du coup, l'éducation nationale n'est pas mieux préparée maintenant ou quasiment pas par rapport à son état de préparation du printemps. Parce que ça n'entrait pas dans le logiciel de M. Blanquer qu'on soit obligé de refermer les écoles. Et d'autre part, la continuité pédagogique, en tout cas sur le plan sémantique, il y a longtemps que nous l'avons abandonnée. On parle d'enseignement à distance, je crois que c'est beaucoup plus réaliste, avec toutes les contingences que ça suppose, et on arrête de parler d'une continuité qui est une illusion portée par le cabinet ministériel, mais que personne sur le terrain à laquelle personne sur le terrain ne peut adhérer.
Merci beaucoup Bertrand Meseure. J'appelle que vous êtes co-secrétaire départemental du SNIPPFSU, syndicat d'enseignants du Prévert. Merci d'être intervenu sur Marmite FM.
Merci Nouradine. Au revoir.
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, le flash actu. La petite enfance était en grève hier à l'appel de plusieurs syndicats au niveau national, des syndicats du secteur qui dénoncent la réforme des modes d'accueil. La réforme prévoit entre autres de modifier le taux d'encadrement des enfants. Si actuellement un adulte s'occupe de 5 bébés qui ne marchent pas et un de 8 enfants qui marchent, la réforme offrira la possibilité aux gestionnaires de crèche d'opter pour une personne pour s'occuper de 6 tout-petits, quel que soit leur âge. Lundi dernier, le conseil municipal de Trappes a adopté le budget 2021 de la commune et voté du même coup une baisse de 5% de la taxe foncière. Celle-ci passe donc de 24,14% à 23%, un impôt considéré par le maire de Trappes, Ali Rabé, comme, je cite, un des impôts les plus inégalitaires de notre pays. Budget toujours, mais au niveau départemental cette fois-ci. Vendredi dernier se tenait la dernière session budgétaire du conseil départemental. 3 chiffres à retenir, plus 32%, c'est l'augmentation du budget alloué au RSA, soit 45 millions d'euros de plus en 2 ans. 36 millions d'euros, ce sont les dépenses liées à la crise du Covid. Et enfin 50 millions, c'est la somme qui sera mise sur la table pour la construction et la réhabilitation des collèges yvelinois. Lundi 22 mars, le conseil municipal de Trappes a rendu hommage à Bernard Hugault, ancien maire communiste de Trappes durant 30 ans, de 1966 à 1996. Il est décédé le 19 mars. Marmite FM vous proposera prochainement une émission hommage. Si vous souhaitez apporter vos témoignages, n'hésitez pas à nous contacter au 01 30 51 08 21 01 30 51 08 21 ou sur notre site internet marmitefm.fr. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, tout de suite, on reçoit notre second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Nous recevons Julie Mautier. Bonjour.
Bonjour Noradine.
Vous êtes responsable du service d'aide aux victimes de l'association DIR, donc association basée à Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes avec nous pour nous parler notamment de 2 sites internet, 2 plateformes récemment mises en ligne pour aider les personnes victimes de violences, de différentes violences. Le site Mémo et le site Parcours Victimes, tous deux portés par la Fédération nationale d'aide aux victimes, donc France Victimes, qui fédère 130 associations locales réparties un petit peu partout en France, et la DIR en fait partie. Est-ce qu'on pourrait commencer, Julie Mautier, d'abord par présenter peut-être en quelques mots l'association DIR?
Oui, bien sûr. Donc l'association DIR est basée effectivement à Montigny-le-Bretonneux. Il s'agit d'une association qui possède 2 services, un service de prévention de la délinquance et un service départemental d'aide aux victimes. Donc ce service est agréé par le ministère de la Justice et effectivement fait partie du réseau de la Fédération nationale France Victimes. Donc nos missions principalement sont d'accueillir, d'écouter, d'informer juridiquement, de proposer un soutien psychologique et d'accompagner tout au long de la procédure et le temps nécessaire toutes les victimes d'infractions pénales. Mmh.
Tout un programme.
Oui, c'est sûr.
Alors le premier site sur lequel nous allons nous attarder, donc c'est un site pour aider les victimes, donc les personnes victimes de violences. Alors c'est surtout pour les violences faites aux femmes, vous me corrigerez hein, si c'est pas tout à fait ça. C'est le site Mémo, donc qui a été lancé en novembre dernier sous l'égide du ministère de la Justice. Et ce site permet aux victimes ou à leurs proches d'avoir accès à 4 fonctionnalités. Alors on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Il y a d'abord un journal qui est proposé. Alors un journal, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut en faire avec ce journal?
Alors effectivement, donc Mémo de vie, c'est un dispositif qui a été... Alors déjà, c'est une plateforme qui est née d'une consultation citoyenne de make.org qui a eu lieu en fin 2018.
D'accord.
Donc c'est un travail qui est vraiment très creusé, très construit. Ça a réuni de nombreux experts, notamment en cybersécurité. Donc c'est vraiment pour insister sur le caractère ultra sécurisé de cette plateforme. Mmh. Et c'est effectivement destiné aux personnes victimes de violences répétées. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est vrai qu'on pense systématiquement aux violences au sein du couple dans le cadre des violences répétées,
oui.
Mais ça peut aussi être pour les personnes, par exemple, victimes de harcèlement au travail, qui sont des violences répétées également. Je pense aussi au harcèlement scolaire. Enfin, voilà, toutes les violences répétées. Mmh. Donc, cette plateforme ultra sécurisée, donc dedans, vous avez effectivement ce journal. Alors, dans ce journal, vous allez pouvoir raconter un petit peu comme un journal intime, hein, au jour le jour, tout ce qui se passe, tout ce que vous avez traversé, vécu. C'est un journal dans lequel vous pouvez aussi mettre des photos, des audios pour pouvoir vraiment se rappeler à quel moment il y a eu ça, à quel moment il y a eu telle situation, etc. Et c'est vraiment intéressant pour aider à la prise de conscience, en fait. D'accord. Et l'intérêt également de ce journal, c'est qu'il peut se partager. Je pense notamment aux professionnels. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, pour l'aide à un dépôt de plainte, vous pouvez partager ce journal directement aux professionnels de police ou de gendarmerie.
D'accord. Mais est-ce que vous nous dites que quand une femme, par exemple, va remplir son journal, il faut qu'elle accepte de le partager, ou est-ce qu'en rentrant justement dans ce site mémo, les professionnels peuvent y avoir accès et peut-être, pourquoi pas, engager déjà des discussions avec la personne ou d'autres démarches? Ou est-ce que c'est une première étape, vraiment, le journal, pour pouvoir mettre sur papier tout ce qui se passe dans le quotidien de ces femmes?
Non, ça se partage uniquement quand la personne décide de le partager. Okay. Comme c'est ultra sécurisé, c'est quelque chose qui appartient à la personne. Donc il faut un code pour se loguer, il faut un autre code si vous changez la moindre information. Donc c'est vraiment quelque chose de très sécurisé. Et la femme décide en fait de partager avec le professionnel effectivement ses documents.
D'accord. Alors justement, il y a quatre fonctionnalités, on disait, vous venez de nous parler du journal, il y a également un espace mes documents, une rubrique contact et une rubrique bibliothèque. On peut détailler un petit peu tout ça ?
Oui, bien sûr. Alors dans l'espace mes documents, vous allez trouver un espace donc sécurisé dans lequel vous allez pouvoir stocker tous vos documents administratifs.
D'accord.
Donc là, il faut imaginer l'utilité, on pense notamment aux violences au sein du couple, où souvent le vol des papiers, le vol du livret de famille, enfin voilà, de tous les documents qui vont être nécessaires pour déclencher par exemple une procédure de divorce. Là, vous allez pouvoir stocker tous vos documents administratifs par scan. Il faut imaginer l'utilité quand vous allez être devant soit votre avocat, soit devant la police, d'avoir à portée de main, en un clic, tous vos documents. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un grand plus. Au niveau de la bibliothèque, donc dans la bibliothèque, vous avez toute la documentation, des articles de loi, des outils pour justement vous renseigner sur les procédures, sur les différentes évolutions législatives. Et puis bien sûr, vous avez donc une rubrique contact avec tous les contacts utiles. Donc on pense aux associations, on pense au 3919, enfin voilà. Tous les contacts qui vont vous permettre de demander de l'aide, en fait, directement.
Mmh. Et vous en parliez tout à l'heure, Julie Mautier, ce site a été vraiment pensé aussi par des spécialistes vraiment de l'informatique, de la cybersécurité. Quand une personne, on le sait, hein, c'est pas forcément évident de pouvoir avoir un moment pour pouvoir faire des recherches. Je ne sais pas si on est sous la coupe, par exemple, d'un mari violent qui peut à tout moment intervenir dans la pièce. C'est là qu'intervient aussi tout ce qui a été mis en place sur le site pour permettre de protéger la personne.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas uniquement à destination que de la victime. Les proches peuvent également utiliser Memoji, c'est-à-dire que si vous confiez à un proche que vous vivez,
d'accord,
ce proche peut créer directement un compte pour vous dans lequel il va pouvoir garder une trace en fait de ce que vous lui dites, etc. C'est-à-dire,
d'accord,
que vous n'êtes pas obligé que ce soit vous qui avez ce document. Et ensuite, cette plateforme a l'intérêt aussi d'avoir si vous êtes en train de remplir votre journal et vite, il faut que vous puissiez quitter rapidement. Donc il y a un bouton qui vous permet de quitter très rapidement et qui donc vous redirige directement vers une autre page internet, donc pour vraiment ne pas laisser de traces. Et le site se déconnecte également tout seul au bout de 3 minutes d'inactivité.
D'accord.
Donc si vous changez de pièce pour discuter, au bout de 3 minutes, ça va vous rediriger vers une autre page, en fait.
Oui, et j'ai essayé, hein, c'est assez rapide, c'est-à-dire que dès que vous cliquez sur le bouton, c'est vraiment très 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 rapide.
Oui, c'est vraiment l'urgence, ouais.
Est-ce que cette plateforme Memo est aussi un moyen de signaler voilà, une mise en danger, ou est-ce qu'il faut plutôt privilégier d'autres moyens quand une femme se sent en danger?
Alors, Mémo, c'est vraiment une aide à la prise de conscience, à la compréhension du vécu. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider plutôt à sécuriser tout ce que vous avez traversé pour pouvoir vous aider ensuite à la suite. Il y a à l'heure actuelle déjà des plateformes qui existent pour signaler des dangers. On passe notamment à la plateforme de signalement des violences sexistes, etc., qui existe. Donc, il y a d'autres plateformes qui existent pour ça. Mémo de vie, c'est vraiment une aide supplémentaire pour vous aider à prendre conscience de ce que vous traversez et aider les proches et aider les professionnels à comprendre votre vécu également.
Après Mémo de vie pour les femmes victimes de violences, qui est sorti en novembre 2020, France Victimes a lancé avec le Fonds de garantie des victimes, Parcours Victimes, donc le site dédié à toutes les personnes victimes. Ça a été fait à l'occasion de la journée européenne des victimes qui est le 22 février, donc c'était le 22 février dernier. Alors en quoi consiste ce site parcours-victimes, tout ça au pluriel, .fr?
Alors donc c'est bien effectivement un site internet qui a été mis à disposition par donc notre fédération France Victimes et par le Fonds de garantie des victimes. Donc ce site a pour objectif d'accompagner les personnes victimes dans leur parcours et d'améliorer leur information. Donc information qui va aller du démarrage, donc depuis les violences, jusqu'à la fin d'une procédure, une éventuelle indemnisation.
D'accord. Oui, pardon, je vous ai coupé. Allez-y.
Non, il n'y a pas de mal. Donc sur ce site, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations juridiques autour de la plainte, la différence avec la main courante, autour des poursuites judiciaires, quel type de poursuite existe, et même donc autour de l'indemnisation, notamment avec tout le volet autour du fonds de garantie des victimes. Et puis, en parallèle de toutes ces informations juridiques que vous allez trouver en quelques clics, vous allez pouvoir retrouver tous les contacts utiles et notamment les associations d'aide aux victimes à côté de chez vous et donc notamment notre association, effectivement.
D'accord. Alors, est-ce que, justement, ce site a une petite différence? Je vais poser une question juste avant celle-là. Est-ce que, oui, parce qu'on n'a pas défini, justement, qui était concerné quand on dit c'est pour les victimes, de qui parle-t-on précisément dans ce cas-là?
Alors, ce qui est intéressant avec parcoursvictimes.fr, c'est qu'effectivement, vous avez deux grands items, victimes majeures ou victimes mineures. Donc, vous avez c'est adapté effectivement les informations au fait que la victime soit un enfant ou au fait que la victime soit un adulte.
Mmh. Et quand on dit victime, c'est victime de tout. Hein. Ça peut être du harcèlement, ça peut être des violences sexistes, sexuelles, etc.
Tout à fait. Mmh. Toutes les victimes d'infractions pénales sont concernées par ce site et peuvent directement se référer à ce site pour avoir des informations.
Mmh. Et quelle différence, du coup, y a-t-il avec le site Mémo dont on a parlé tout à l'heure?
Alors, pour le coup, parcours victime, c'est plus pour avoir des infos. Hein. C'est vraiment une sorte de bibliothèque d'informations juridiques.
D'accord.
Vous apprenez plein de choses concrètes sur vos droits et puis ça vous met directement en lien avec le travail des associations d'aide aux victimes, si vous voulez rencontrer un juriste, si vous voulez rencontrer un psychologue, comment ça fonctionne, etc. Mémo de vie, c'est vraiment un outil sur mesure pour aider à la prise de conscience. Donc, c'est vraiment destiné aux victimes qui veulent, déjà, imaginez pouvoir stocker tous ces médias, c'est hyper important, tous ces documents officiels, et puis pouvoir relater au jour le jour qu'on ressent. C'est pas tout à fait la même démarche.
Et puis on rappelle aussi, hein, à toutes fins utiles, que sur parcoursvictimes.fr également, c'est un site également sécurisé, hein, avec qui permet, comme sur le site Mémo, de pouvoir se protéger également pour les personnes en danger.
Ouais. Tout à fait, oui.
Une petite question peut-être subsidiaire, Julie Mautier. Là, on parle de site internet. On sait qu'il existe aussi beaucoup de sites internet pour les victimes de violences. Est-ce qu'on sait s'il y a un impact réel, si c'est une vraie aide? Alors, il y a peut-être un peu plus de recul avec Mémo parce qu'il est un petit peu plus vieux de quelques mois. Parcours victime, ça va être difficile à dire puisqu'il est sorti au mois de février. Mais est-ce que c'est vraiment des aides? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous, même dans votre quotidien, en tout cas dans le travail que vous faites, c'est quelque chose qui vous aide, qui peut vous aider?
Alors, Mémoisie, il est à l'heure actuelle expérimenté dans je crois, 6 territoires pilotes et qui expérimenté aussi auprès des brigades de gendarmerie, commissariats de police, etc. Donc, on aura bientôt plus de recul. Pour le moment, on n'a pas encore trop de recul.
D'accord.
Après, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut proposer quand on rencontre des victimes de violences répétées. On fait de la communication autour de Mémoisie.
Oui.
Et on propose effectivement aux victimes rencontrées de ne pas hésiter à se créer un compte pour pouvoir... exprimer ce qu'elle ressent, sécuriser ses documents, etc. Mais c'est quelque chose dont on parle souvent. Après, vous dire au niveau si les professionnels à l'heure actuelle l'utilisent, c'est un peu compliqué. Nous, en tant que professionnels de l'aide aux victimes, oui.
Merci beaucoup. En tout cas, Julie Mautier, je rappelle que vous êtes responsable du service d'aide aux victimes de l'association DIR, donc association basée à Montigny-le-Bretonneux. Merci d'être intervenue sur Marmite FM.
Je vous en prie. Merci à vous.
Mélophilo. Vas-y. J'écris des rimes fortes, l'émotion passe par ma musique. En 88, j'étais un novice fils. Je descendais dans la rue, contemplais son décor. Et aujourd'hui, je rappe jusqu'à la mort. Danidane était déjà dans la peinture, Zonge dans la bande. Et moi j'avais mon stylo bim pour l'écriture. La gloire ou l'argent, on n'y pensait même pas. C'était l'amour pour le hip-hop et on le savait déjà. Boulogne était une ville encore endormie. Tu veux des news, prends le trop, mais va jusqu'à Paris. Aujourd'hui je représente Boulogne, Ponce-Sainte. La nuit je marche vers les étoiles comme ma cité s'éveille. J'envoie de la lumière, mon groupe est clair comme un luminaire. Exposé des rimes intelligentes, juste pour mes frères. J'écris des rimes fortes, l'émotion passe par ma musique. En 88, j'étais un novice suisse.
Dans les noms des sons.
Nos rimes légendaires partout autour du monde.
Dans les noms des sons.
Sage poète. Tu connais ma position au sujet du rap. Si tu brûles les étapes, tu te retrouveras au fond d'une trappe. Maintenant c'est le business qui prend le dessus. Je suis déçu, je vois des jeunes qui perdent la tête et font des choses inattendues. Mais moi je poursuis ma route. Avec mon groupe, on ramène le soleil pour éclairer les trous. Je suis comme une plante qui a besoin d'eau fraîche pour s'épanouir. Et j'ai cette volonté farouche de réussir. J'écris des rimes fortes, la musique je l'exporte.
Et si tu l'aimes,
tu frapperas demain à ma porte et ensuite tu diras merci. Car c'est la qualité, on rentre dans tous les foyers. C'est bien la vérité, j'ai besoin de ça. Ma source est musicale, je prends vie et forme. Mes mots te pénètrent comme des balles. Cuir porteur, rime délicieuse, colporteur. J'ai fait voyager dans mon univers, il est l'heure.
Dans les noms des sons.
Nos rimes légendaires partout autour du monde.
Dans les noms des sons.
Sage poète, si sage poète. Je veux briller comme une étoile, puis ramener les frères dans la danse comme en 84. Dans notre musique y'a pas de faille, tu restes debout. Y'a toujours ce petit truc en plus qui fait qu'on reste dans le coup. On te met au top comme genre si tu rejoins nos rangs. Mais si tu trahis l'équipe, on ne fera pas de sentiments. J'aère mes phrases pour créer de l'espace. Place les mots essentiels dans les mesures, tu vois que c'est efficace. Dans mes yeux, y'a cette paix que tu réclames. Tu es cet ange qui vient du ciel pour épurer ton âme. J'arrive en force bébé avec cette funky attitude.
Sage pour aider la rue.
17h, passé de 50 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, on passe à la Minute Conso.
La Minute Consommateur avec Pierre Joanet.
Lorsque vous naviguez sur Internet, vous devez fréquemment accepter ou refuser des cookies. Ces traceurs utilisés par les sites Internet pour stocker notamment les données de navigation nécessitent en effet le consentement préalable de l'internaute. L'internaute doit être clairement informé des objectifs de ses cookies et il doit être aussi facile pour lui de les refuser que de les accepter. À compter du 1er janvier 2021, tous les sites français devront être conformes aux nouvelles règles. Dans le cas contraire, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, pourra contrôler les sites concernés et éventuellement prononcer des sanctions. Certains cookies sont indispensables au bon fonctionnement d'un site Internet. Ils servent par exemple à mémoriser le contenu d'un panier d'achat ou bien des préférences d'affichage. D'autres ne servent qu'à collecter des informations sur l'internaute afin de lui adresser de la publicité personnalisée selon ses goûts et ses centres d'intérêt. Avant de cliquer sur « Accepter », l'internaute doit comprendre facilement à quoi servent ces traceurs publicitaires. Publicité personnalisée ou non ? Publicité géolocalisée ? Personnalisation du contenu ou encore partage d'informations avec les réseaux sociaux ? Le site doit l'informer de façon claire et synthétique de ce à quoi ils vont servir. L'internaute doit aussi pouvoir refuser les cookies aussi facilement qu'il lui est proposé de les accepter. Il ne doit pas être obligé de passer par un paramétrage complexe et dissuasif. En effet, lorsqu'un seul clic est requis pour accepter, tandis que plusieurs actions sont nécessaires pour paramétrer un refus, l'internaute, qui souhaite généralement accéder rapidement au site, risque d'être influencé. Si un site ne respecte pas les règles de protection des données, il est possible d'adresser une plainte à la CNIL qui, en complément de ses lignes directrices et de sa recommandation publiée en octobre 2020, elle met à votre disposition de nombreuses fiches pratiques et une foire aux questions pour tout comprendre sur les règles applicables.
$1,3 million, c'est le nombre d'embauches de jeunes entre août 2020 et janvier 2021 en CDI ou en CDD de plus de 3 mois. Réalisé donc avec le plan Un jeune, une solution, parmi eux, 500 000 jeunes ont signé un contrat d'apprentissage. C'est un record historique malgré la crise sanitaire. Kama Traoré.
Le 15 mars s'est tenue la conférence du dialogue social, réunion pendant laquelle la prolongation de ces aides a été décidée jusqu'au 31 mai 2021, dans la limite de 1,6 SMIC, avec aussi une prime de 4 000 euros maximum d'aide à l'embauche pour les entreprises qui recruteraient un jeune à temps plein, et une prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 pour l'aide exceptionnelle pour l'alternance comprenant une prime de 5 000 euros pour tout alternant mineur, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ainsi qu'une prime de 8 000 euros pour un alternant de plus de 18 ans. En résumé, des jeunes seront recrutés dans plusieurs secteurs, tels que le sport, l'animation ou encore le secteur du soin, et ce, avec ou sans qualification. À noter que l'aide à l'embauche versée sur un rythme trimestriel pendant une durée maximale d'un an ne sera pas cumulable avec d'autres aides de l'État. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.unjeuneunesolution.gouv.fr.
Voilà, c'est terminé pour cette émission. Marmite fait son actu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre nouveau site internet à l'adresse suivante marmitefm.fr. La rediffusion, c'est ce vendredi de 17h à 18h et samedi de 12h à 13h. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau direct.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.